Nous sommes dans un milieu salutogène, une abbaye qui est sur une colline comme toutes les abbayes bénédictines. Et donc je vais vous emmener dans les PME des abbayes, parce qu'au fond, dans une abbaye, il y a moitié travail, moitié prière, et il faut vivre de ses revenus. Et donc, dès le VIe siècle, Benoît écrit une règle qui permet de régir des PME qui ont été à la conquête de toute l'Europe. Et au fond, ce monde de PME qui est statistiquement très élevé, eh bien c'est l'histoire, entre guillemets, de notre civilisation. Je suis désolé, mais quand on commence une séquence dans une abbaye, eh bien l'abbé, le père, le patriarche, quelque part, il donne une injonction pour que tout le monde soit aligné. Je vous demande donc, après un coup que je vais faire sur la table, de tous se lever, d'écarter les pieds et de ne plus faire un bruit en silence, s'il vous plaît. Aligné, dos droit, calme. Asseyez-vous. Avant chaque office, les moines sont dans les stalles, ils attendent un moment et ils attendent ce premier coup pour se mettre en alignement. Et ensuite, l'office commence. C'est pour devenir robur ad pugnam, robuste pour la bagarre de la vie. Et vous savez que le mot méditation a un sens militaire. Les légions romaines avançaient au milieu du champ, méditent et faisaient une station, comme vous l'avez fait. Et après un signal, tchac, à la bagarre. La méditation est une préparation pour la bagarre de la vie. Moi, j'aimerais vous entraîner un peu dans ce modèle-là, parce qu'au fond, aujourd'hui, c'est quoi comme journée? Moi, j'ai pensé, je suis venu ici, quand j'étais jeune prêtre, j'étais moine, 3 ans, donc j'ai vécu la vie de Saint-Benoît, hein, quelque part. Eh bien, on venait faire des jours de recollection. C'est le mot qu'on utilise dans le langage catholique pour faire une petite retraite. Mais le mot recollection, c'est un mot savoureux. Ça veut dire qu'on a des morceaux épars qu'il faut recoller de temps en temps. Et moi, j'aimerais qu'on profite de la journée pour tenter de recoller des morceaux de vie, puisqu'on est quelque part dans un monde qui s'éclate. Hein, et on est dans cette souffrance, parce qu'effectivement, il y a tout ce qu'on a pu partager avec Olivier, et qui fait que cette tension, cette incertitude, quelque part, elle nous disperse. Donc prenons ceci sous l'angle d'une journée de récollection, une journée où on va se refortifier. Ce mot « récollection » veut dire surtout se remettre ensemble pour qu'on puisse devenir plus fort dans la vie, pour pouvoir se cueillir et se recueillir. Moi, j'ai vécu dans un monastère où j'ai travaillé de mes mains pendant 3 ans. Et puis ensuite, pendant 26 ans, j'ai été DRH dans des grands groupes dans le monde entier. Et j'ai vu toutes les modes de management et de leadership. J'en ai même enseigné, j'ai appliqué, j'ai trahi ces modes, je suis revenu quelquefois en arrière. Et je me suis dit, à un moment donné, c'est quoi l'essentiel? Alors bon, j'avais plusieurs chemins possibles. C'était de retourner à Aristote, médecin, philosophe, qui avait quand même une idée assez réaliste. Une deuxième idée que j'ai accomplie, je suis revenu à Jésus-Christ laïque. Dans ses interactions sur l'Internet, j'ai commis ce petit livre du leadership provocateur selon Jésus-Christ, hein, en essayant de regarder au fond comment ces interactions pouvaient se passer. Puis ensuite, bien sûr, pour moi, ce qui était plus important, c'était de dire, tiens, le premier manuel de management qui a eu le plus de succès dans l'histoire de l'humanité, c'est la règle de Saint-Benoît, et qui a gouverné notre Europe pendant plusieurs siècles. Benoît, on le caractérise, c'est Grégoire le Grand qui le dit, par une phrase, quelqu'un qui habite avec lui-même, habitare secum. Un moine, c'est quelqu'un qui habite avec lui-même. Un moine, ça vient de monos, c'est quelqu'un qui est un et qui vient justement dans une PME monastique pour apprendre le salut afin de vivre dans un endroit salutogène, hein, de pouvoir faire sa vie. Eh bien, nous allons essayer de passer de la performance à l'attraction. Alors moi, quand j'ai vu le sujet d'aujourd'hui, ressourcement et performance, je suis allé chercher dans mes dictionnaires favoris l'origine du mot « performance ». C'est les anglo-saxons qui ont piqué un vieux mot français et ils l'ont appliqué d'abord et surtout aux chevaux. Donc maintenant, le mot performance, on a passé des chevaux aux hommes, ça dit bien qui nous sommes. Et à l'heure actuelle, quelque part, vous allez voir que le modèle change. Nous allons passer du monde, on va dire de la performance qui excentre, l'objectif nous fait pousser dehors, yetare hob, et nous voyons que maintenant nous sommes dans le monde de l'attractivité. Simon Sinek, que vous connaissez bien puisque c'est celui qu'on voit le plus sur YouTube, il dit que sur le what et le quoi, on ne fait aucune différence. Une voiture est une voiture, un ordinateur est un ordinateur, une conférence est une conférence, une abbaye est une abbaye, une auto est une auto. Il dit, en fait, comment la différence sur le how? Ben, la bonne ambiance, la culture d'entreprise, comment on fait les choses, la formation qu'on reçoit. Si on travaille pour le what, c'est la feuille de paye. Si on travaille pour le how, c'est la feuille de paye et la bonne ambiance qu'on y reçoit. Mais surtout, il faut travailler pour la raison d'être. Le why. Et si on travaille pour le why, c'est une passion. Et à l'heure actuelle, dans les entreprises, y compris dans les PME, on dépense beaucoup d'énergie sur le what, un peu sur le how, une journée comme ça, la connexion par exemple, mais sur le why, on ne met pas d'emphase. Et si on travaille pour le why, ça engendre deux choses que j'ai piquées en réflexion avec Sinek, reputation and trust. Création de confiance et d'aura, quelque part. Et puis, je me rappelle d'avoir appris dans une séance aux États-Unis sur le marketing, c'est qu'autrefois, on vendait des commodities, donc de la farine, des œufs, du beurre, du sucre et de la levure. Ensuite, on a vendu des produits, products, le cake. Ensuite, on a vendu des services, on a livré le cake. On ne fait plus aucune différence sur ces trois choses-là. Si on va au restaurant, on attend que la nourriture achetée au marché soit correcte, qu'elle soit bien apprêtée et que le service soit bien. Sinon, on se taille. On fait la différence maintenant sur, excusez-moi pour l'anglais, c'est la même chose, experience. La fête autour du cake. Donc aujourd'hui, ce que je vous présente, ce n'est ni des commodities, ni des products, ni des services. J'espère qu'on va vivre dans une journée de récollection comme une experience. Et ce modèle-là fait que, quelque part, on doit devenir attractif. Un client, la semaine passée, m'a dit que maintenant, dans son domaine d'activité, sur 10 clients, il y en a 7 qui viennent le trouver parce qu'ils ont eu assez d'informations. Donc, il a été attiré par l'information et 3 qui répondent au business model ancien. Donc, nous sommes dans une inversion très forte de ce que l'on est en train de faire. Donc, la performance, toute notre éducation sur la performance, elle sera maintenant renversée par la nouvelle approche de digitalisation. Voilà. Alors, moi, j'aimerais simplement diviser cette petite présentation sur 3 sujets. Lire les signes des temps. J'ai piqué ça quelque part, donc vous verrez, littéralement, vous avez ceci dans Matthieu 16 et Luc 12, où le maître, il engueule les disciples en disant vous voyez des trucs, vous savez les interpréter, mais en fait, vous ne voyez rien. Hein? Quels sont les signaux que nous avons? Alors, je vais faire des signaux macro rapides, puis ensuite, je vais vous livrer quelques astuces de Benoît, hein, de Saint-Benoît. Dans la règle, je l'ai relu, j'ai piqué 2-3 trucs. Et je vais vous les donner. C'est assez décoiffant. Je vous donne un exemple. Hein. Il dit, quand vous devez nommer le chef de la PME, vous vous en fichez de l'ordre d'entrée d'ancienneté. Et même si c'est le dernier rentré et le plus jeune, vous pouvez le prendre comme le patron. Vous avez, par exemple, il dit aussi pour vos numéros 2, ne vous laissez pas planter des numéros 2. Choisissez-les soigneusement ou n'en prenez pas. Puis si vous avez fait 3 remontrances et que ça ne marche pas, évacuez-le. D'avoir véritablement une certaine fraîcheur hein, qui puisse se retrouver. Alors, nous sommes, si j'ose dire, dans un environnement en tension. Hein. Il ne faut quand même pas se raconter des choses sous nos yeux. Michel Serres, il dit dans Petite Poussette hein, que le monde du travail, le monde de l'organisation, le monde de la santé, de l'enseignement, sont des icebergs qui tournent sous nos yeux dans une mer chaude. On ne sait pas ce que ça va devenir. Et moi, je lisais encore très récemment, eh bien, nous sommes piégés par la mondialisation et on est à la fin du cycle de Doha. Moi, j'aime beaucoup le professeur Dembinski, parce que c'est un spécialiste de l'enseignement sur développement durable et éthique. Et il dit « Les élites libérales ont fait la sourde oreille aux signaux faibles, amplifiés tous de même par la crise financière. Elles ont manqué d'imagination pour trouver des réponses adéquates et ont ainsi ouvert la voie au populisme qui s'apprête à prendre le relais du pouvoir. » Donc, on a cette première donnée qui est sous nos yeux. Et c'est intéressant, c'est qu'on peut écouter ça au niveau du langage. C'est-à-dire qu'au fond, le président des États-Unis, avant, il avait un discours qu'on pouvait presque deviner à l'avance de ce qu'il allait dire. Maintenant, quand Donald parle, on ne sait pas ce qui va venir. Mais y compris le pape François. Hein, vous voyez qu'il fait peur à toute la curie du Vatican, parce qu'au fond, finalement, comme il n'a pas déposé ce qu'il allait faire, ça parle. On est dans un autre univers au point de vue langage. Hein, on est dans un langage de non-retenue. Ce qui est intéressant, c'est une deuxième donnée pour lire les signes des temps. On pourrait passer des heures, hein, je ne suis pas sociologue, mais quelque chose qui est aussi très intéressant à observer, c'est que les robots de la digitalisation, j'ai lu ça récemment, eh bien, font que le taux de natalité chute. En Californie et aux États-Unis, qui normalement un taux de natalité de 2,8, eh bien ce taux est challengé. La France, qui a un très beau taux de natalité de 2,3 et compagnie, est aussi en train d'être challengée. L'Allemagne a un taux de natalité qui est en train de chuter violemment. Et puis la Grèce à 0,8, l'Italie 0,8, l'Espagne 0,8. Ben, les peuples qui ne font pas d'enfants ne remboursent pas leurs dettes. En Suisse, on est 1,3, 1,6, selon si on compte avec les femmes étrangères ou pas. Donc, on a sous nos yeux, j'allais dire, un enjeu majeur, entre guillemets, de création de PME. Je veux bien, mais il faut qu'il y ait des gens qui puissent rejoindre la PME, donc il faut pouvoir faire des individus. On a aussi un emballement individualiste avec un engouement spirituel en même temps. C'est terrible, c'est quand on partage une spiritualité, soit on rentre dans une secte, dans une église ou dans une communauté, comme les communautés monastiques, soit on fait, entre guillemets, le truc à sa petite semaine soi. Et en fait, chacun d'entre nous, on a une grande dérive sur le développement personnel. Et vous savez que j'ai écrit un article dans le temps où il s'était demandé le bien-être au travail, une arnaque, point d'interrogation. Maxime Morand a répondu oui. C'est-à-dire qu'au fond, on a une illusion à l'heure actuelle de penser qu'on va faire son bonheur au travail. Alors qu'on ait du bien-être, je veux bien, de belles heures de temps en temps. Mais franchement, le travail, tripalium, souffrance, c'est un lieu où il faut y aller, hein, où il faut avoir des règles du jeu. Et vous verrez que Benoît, il évite pas du tout cette problématique de savoir que ça peut être difficile. Il y a des gens qui supportent ou ne supportent pas. En fait, à l'heure actuelle, le développement personnel nous permet de nous connecter à nous-mêmes, mais nous déconnecte des autres. À la méditation que j'expliquais tout à l'heure comme acte de guerre pour aller comme robuste à la bagarre de la vie, la méditation, c'est une évasion à l'heure actuelle. C'est une façon de penser en dehors du cadre. Ça ne nous relie plus aux autres et puis on est un peu déconnecté de notre environnement, mais de notre environnement même politique. Notre environnement de société. Et donc, cette solitude-là, dont on a parlé tout à l'heure, elle s'accentue. Bon, le côté peut-être qui est plus sympa, c'est qu'il faudrait être créateur de sa propre vie. Vous savez, moi, j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur Père. Nous n'avons qu'un seul Père, dit Jésus en Matthieu. Hein. Ne vous faites pas appeler Père. Mais on est dans la logique même de la création. Et au fond, un chef de PME, un leader, quelque part, il s'inscrit dans un mouvement de création. Bon, il y a des choses aussi assez sympathiques. C'est que c'est vrai, il y a des films comme Demain qui nous disent qu'il y a peut-être un modèle de société qui, sous nos yeux, vont se mettre en place. Ce qui devrait arriver, finalement, comme réponse à ce monde qui change, ce serait, de mon point de vue, une façon de renverser l'organigramme et de retourner à Aristote avec le principe de subsidiarité. Ce que l'homme n'arrive pas à faire tout seul, c'est la famille qui le fait. Ce que la famille n'arrive pas à faire toute seule, c'est la communauté qui le fait. Ce que la communauté n'arrive pas à faire toute seule, c'est la cité qui le fait. Ce que la cité n'arrive pas à faire toute seule, c'est le prince qui le fait. Il y a donc en dernier. Et donc, on a d'abord, dans toute organisation, ce qu'on appelle les parties prenantes, les clients, les prospects, les fournisseurs. Et ensuite, on a une série de comportements clés, que moi j'ai appelés réflexes, ce sera une de mes conclusions. Et ces réflexes-là doivent être alignés aux attentes des parties prenantes à venir. Et l'encadrement, avec la direction, eh bien, sont là pour sertir l'ensemble des compétences en vue de la réussite, en guillemets, des réflexes vis-à-vis des clients. Donc, on a raison à la tête de l'organigramme que quand on a mis les clients à la tête de l'organigramme. On m'a interrogé à la radio sur les comportements bizarres d'harceleurs du patron d'Amazon. On m'a dit, mais qu'est-ce que vous devriez faire, M. Morand, par rapport à ça? Je dis, c'est très simple. Vous pouvez décider si vous continuez à acheter à Amazon, si vous achetez qu'à 50% de bouquins sur Amazon ou à 0%. C'est vous, les patrons. Et quelque part, il faut pouvoir, presque éthiquement parlant, se diriger ceci. Dans les entreprises, on a aussi quand même des tendances qui sont assez lourdes, dans la mesure où on a des statistiques qui vont en tous sens concernant le burn-out, concernant la satisfaction globale et le bonheur. Je me suis amusé ces dernières années à relever ceci. Franchement, j'espère qu'il y aura des gens qui sont dédiés à cela. L'interprétation est juste impossible. Vous entendez tout et n'importe quoi. En Suisse, vous avez 82% de gens heureux globalement. Mais vous avez 67% de gens qui ne sont pas bien au travail. Je fais quoi avec ça? Et donc, on a, j'allais dire, des instituts qui nous parlent de satisfaction et qui nous parlent de bien-être et de souffrance. Et plus on parle de bonheur, plus on a les yeux tristes, comme disait Aragon, et plus on a de burn-out. Et donc, on est dans une situation où on a levé les attentes à 4000 mètres d'altitude, puisqu'il faut être heureux. Puis quand on arrive à 3000, il manque 1000. Donc quand vous levez les attentes, vous créez du manque. Et donc on a l'effet pratiquement inverse. Et vous avez aussi le grand nouveau pape du management qui vient de s'installer dans le Vatican du management, c'est-à-dire l'IMD. Et ce nouveau pape s'appelle M. Manzoni. Il a écrit un article « Quand le patron affaiblit ses employés ». Et littéralement, il dit qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais on peut faire que mal. Donc un manager, il peut faire tout ce qu'il veut, mais on peut faire que mal. Et qu'il faut, pour un manager, il n'est pas souhaitable, c'est sa conclusion, et ça me permettra d'aller vers Saint-Benoît ensuite, c'est qu'on ne peut pas se comporter de la même façon avec chacun. Et que la grande problématique dans la communauté de Benoît, c'est qu'il on verra, il a un grand principe, c'est de se dire, ouais, première règle, ne pas faire exception des personnes. C'est-à-dire, il faut tenir compte de tout le monde la même chose. Puis après, il dit, ouais, mais il n'y a pas tout le monde qui a la même chose. Et donc, peut-être qu'il faut donner plus à ceux qui ont besoin de plus et moins à ceux qui ont besoin de moins et que personne ne murmure. Benoît est un tueur de rumeurs. Ça vient de l'Ancien Testament, quand les Égyptiens, les Israéliens étaient sortis dans le désert. Ils rouspétaient parce qu'ils pensaient aux marmites d'Égypte qui étaient bourrées de viande et d'oignons, alors qu'ils n'avaient rien à bouffer si ce n'est la manne dans le désert. Et au fond, le vrai péché, c'est de rouspéter. Et une organisation qui accepte des rumeurs est une organisation toxique. Et Benoît, il veille à ça. Visite de la règle de Saint-Benoît. Deuxième partie. Benoît, c'est quelqu'un qui a fait la noce à Rome pendant ses études, donc il ne les a pas réussies. Et donc, il s'est retiré sur une colline, comme ici, et il a commencé à être ermite. Et puis, il a eu de la notoriété. Donc, il y a plein de gens qui sont venus autour de lui. Et pour finir, il a dû les organiser. Il a eu vraiment beaucoup de succès, parce que ça a essaimé de plus en plus. Et il a commencé par lire les anciennes règles, la règle de Pacôme, désert, Égypte, Basile, en Grèce, et la règle du maître, et il en a fait une toute petite règle. Donc, la première idée de Benoît, c'est de simplifier. Hein, ces immenses règles, c'est de dire, il faut simplifier tout ça. Hein, c'est une idée. Deuxième idée, c'est... c'est de simplifier pour que le monastère devienne une école de vie. C'est très intéressant, c'est que ça veut dire qu'on n'attend pas que les gens soient bien pour venir au monastère. Quelle que soit votre condition de noble ou de rustre, dit-il, eh bien, le vivre ensemble va nous former. Et je pense qu'on n'a plus la notion d'entreprise dans un lieu où on est en apprentissage humain les uns des autres. Voilà. Prologue, donc c'est fonder une école de vie avec rien de pesant, avec un peu de contrainte, et le progrès de la conduite dilate le cœur. Voilà, ça c'est le prologue de la règle. Il dit, écoutez, on va faire quelque chose, on venait dans une école de vie, on fera rien de pesant, mais il y aura quand même un peu de contrainte, donc il ne faut pas se la raconter, et le progrès pendant qu'on vit ensemble dans la PME, eh bien ça va dilater le cœur. Et on n'est pas dans une entreprise où on est obligé de prouver qu'on est bien à l'entrée. Et donc, on a cette possibilité de grandir dans l'entreprise. Chapitre 2, l'abbé, le patriarche, le père, tel qu'il doit être. Il doit se souvenir de son nom de supérieur tout le temps. Donc, pour tenir sa place, il doit le réaliser par ses actes, et il doit répandre les ferments dans l'esprit des personnes qui lui sont confiées. Et il devra rendre compte de son titre. Moi, je fais quelques allusions, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises où on ne rend pas compte, entre guillemets, des choses que l'on fait. Et diriger, c'est par parole, pour les gens qui comprennent, ou c'est par les actes, pour les gens qui ne comprennent pas. Pas de discrimination de naissance, on l'a vu, c'est très important. Promotion sans tenir compte du rang. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer de mandataire commercial à fondé de pouvoir à sous-directeur, sous-directeur, à directeur adjoint, puis ensuite directeur, et peut-être parmi les directeurs d'être le directeur général. Non, c'est-à-dire au fond, si quelqu'un a des qualités, directement à la place qui lui revient. Favoriser les meilleurs dans les tâches les plus humbles, hein, de pouvoir relever. Tenir compte des dispositions de chacun. On ne peut pas confier le même travail selon les individus. Reprendre, exhorter, réprimander. Moi, j'ai vécu dans des cultures, je suis désolé de dire, puisque j'ai travaillé en milieu genevois, et un peu, j'ai travaillé pour le Crédit Suisse, plutôt protestant, si j'ose dire. J'ai travaillé pour l'Union bancaire privée, famille juive. Saint-Benoît nous parle directement. Et puis j'ai travaillé ensuite pour des grandes familles protestantes et autres. Mais c'est quand même assez difficile de voir que la culture du feedback est pratiquement inexistante. Et les entreprises, à tout niveau, crèvent de manque de feedback. Les statistiques dans tout l'OCDE disent que les entreprises crèvent de manque de feedback. Douceur et sévérité, se conformer et s'adapter à tous selon les dispositions et l'intelligence de chacun. Corriger autrui pour se corriger soi-même aussi. Donc il y a cette notion de correction qui est là. Le recours au conseil des frères, il dit tous au conseil. Un jeune peut révéler ce qui est préférable de faire. Donc de nouveau, de prendre des générations différentes. Moi j'ai eu la chance d'avoir des assistants, que j'ai pris toujours jeunes, 29-30 ans, très bon en informatique, recherche et développement, indicateur, rédaction, conception, et qui avait le droit de me dire « Maxime, virgule, vieux con, virgule, si j'étais à ta place, voici ce que je ferais. » Donc d'avoir des stagiaires où on essaye de les bourrer de nos informations et de notre expérience, c'est terminé. C'est un aller-retour, c'est de l'intergénérationnel. Et Benoît est déjà dans cet intergénérationnel. Peut-être un petit peu assez simple, c'est... Grosso modo, un moine, c'est quelqu'un qui ne rouspète pas parce qu'il doit être toujours content. Donc on n'a pas dit extrêmement satisfait et heureux, mais content, comme un bidon est plein. Il y a du contenu qui est là. Les doyens du monastère, eh bien, les numéros 2 et les numéros 3 de la hiérarchie, si jamais ça ne marche pas, 3 corrections puis destitution. Les frères qui sont souvent corrigés et qui ne veulent pas s'amender. Alors Benoît, il dit d'abord, ben, c'est comme un médecin, on applique les simples, des herbes, la parole. Ensuite, on va vers des calmants et des onguents, hein, quand même, où on envoie des saint-pectres, on envoie des frères un petit peu avec de l'expérience pour aller parler à l'autre gars, pour voir comment... Donc l'abbé, il reste à distance, hein, il n'intervient pas tout de suite. Hein. Puis ensuite, il va, jusque le cas échéant, au cotère de l'exclusion, voire le fer pour amputer. Mais je vous le dis parce que comme DRH, moi j'ai licencié, je pense que j'ai licencié plus de 800-850 personnes dans ma carrière de 26 ans. Et souvent je me disais qu'on me traînait avec des problèmes. Et souvent quand j'atterrissais quelque part, je disais, quand je partirai, il n'y aura pas autant de cadavres dans les placards que j'en ai trouvés. Et des cadavres qui font souffrir et qui puent. Et que tout le monde sait qu'ils puent. Tous doivent-ils recevoir également le nécessaire? Je vous ai dit, pas de favoritisme, distribué selon les besoins de chacun, toujours pas de rumeur. Puis il y a un très joli chapitre, je ne vais pas aborder, mais vous le connaissez déjà, je l'ai publié sur chapitre 40 de la mesure du boire. Combien un moine peut-il boire de vin par jour? Et Benoît commence par dire, non, je ne veux pas légiférer en la matière. Vous avez tous du discernement. C'est important. Le mot clé de Benoît, c'est la discrétion, la jugeote, la façon de discerner. Deuxièmement, il dit, oui, mais il y a tout le monde qui me presse de dire quand même quelque chose, puis il y a les simples, il faut quand même leur dire les choses de façon un peu carrée. Alors il dit, bon, un moine peut boire une émine de vin. Adalbert de Vogueux, le grand spécialiste de la règle de Saint-Benoît à l'abbaye de Solesmes, il dit que c'est 0,471 litres. Moi, je pense que c'est 7 décis. Les bouteilles de Bourgogne, hein, notamment. Puis il y a un troisième élément, il dit, oui, mais de temps en temps, dans la vie de l'abbaye, vous bossez beaucoup, parce que vous rentrez le bois, vous rentrez le foin, vous devez organiser des choses, donc l'abbé peut vous permettre d'en boire davantage, pas jusqu'à l'ivresse. Puis de temps en temps, le vin est trop cher. Donc vous ne pouvez pas vous en payer. Donc, il y a 3 morales. La morale du discernement, la morale de la norme et la morale de la culture de l'endroit où on est. En entreprise, la morale du discernement, c'est le leadership. La morale de la norme, c'est les produits et les services qu'on applique maintenant aux gens. Et puis, le discernement, c'est la culture d'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait ou ne fait pas dans cette entreprise-là? Nomination de l'abbé, sa vie et sa sagesse même, s'il est le dernier rentré, servir et non pas asservir. Corriger sans rien de trop, de peur qu'à trop vouloir racler la rouille, le vase ne se brise. Avoir devant ses yeux sa propre fragilité. Hein, quand on a parlé d'un PME qui ne se révèle pas fragile. Pierre-Emmanuel, un poète, il dit « Ne fermez pas vos blessures, c'est par là que l'autre entre. » Discernement et mesure. En principe, pas de numéro 2. Et si quelqu'un pense que c'est impossible à obéir, le mot obéir veut dire obouir, hein, d'entendre, d'écouter. Hein, si c'est impossible de le faire, eh bien, il faut soumettre les motifs du fait que je ne peux pas réaliser cette tâche. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, sibi in vicem obedient fratres. Les frères doivent s'obéir les uns les autres. Donc c'est la connexion entre les gens qui est très importante avec une écoute réciproque. Il faut s'honorer mutuellement, se supporter avec patience et faire, grosso modo, ce qui est utile à autrui et à tous. Et puis il dit qu'au fond, toute la vie n'est pas codifiée dans cette règle et donc il faut pouvoir grandir autrement. Maintenant, en conclusion sur les habiletés autres, plus que 10 minutes, merci. Il faudrait que l'on devienne des ingénieurs en organisation humaine. Moi, je trouve que j'ai bien aimé tout ce parallèle sur les PME, les PMI et compagnie, mais au fond, de regarder un organigramme dans les yeux, par exemple celui que j'ai fait à l'envers, hein, comme tel, c'est clé. L'organisation, elle apporte, entre guillemets, de la circulation de bien-être ou littéralement des toxines aussi. Il y a des organisations qui sont toxiques en soi. Et le système de PME peut être aussi très toxique. Hein, si vous avez des patriarches fondateurs avec madame qui fait la paye et puis que les choses sont cachées derrière et puis qu'il y a un premier cercle, un deuxième cercle et compagnie, c'est aussi des lieux de souffrance. Et ça va supposer qu'on écrive des règles individuelles. Moi, je suis tombé dans un comité de direction quand je suis arrivé à Genève où il y avait sur 6 personnes, 2 qui ne se parlaient pas l'une à l'autre. Donc ces gens-là me disaient « Maxime, dis à Eustache telle chose ». Puis Eustache disait « Maxime, dis à Eustache numéro 2 autre chose ». C'était juste invivable. Donc on a détruit ce comité de direction. Il a duré quoi qu'à débarquer pour faire le tout. Et on a fixé des règles du jeu. Et une des règles du jeu, c'est que j'ai piqué à Benoît. Benoît, il dit que quand on pense que quelque chose a quelque chose contre moi, je peux rompre le silence d'après compli, qui est le silence total, pour aller vers le frère avec lequel je pense que je ne m'entends pas, sans que ce soit de ma faute. Et donc, on a appliqué cette règle en se disant, d'un comité de direction à l'autre, d'un mardi à l'autre, il faut avoir réglé les différends avant la prochaine réunion. Et d'essayer d'imaginer des règles assez simples. Chez Benoît, ce qui est très important et qui est le lieu de déstress, c'est la lectio divina. La lectio divina, c'est lire un livre en mangeant les mots. Pour se concentrer et les prendre. Ce n'est pas une méditation vive. Du reste, pour la méditation, j'ai vu une petite vidéo d'un moine, un jeune moine tibétain sur YouTube, il dit, c'est juste terrible, il dit, au fond, notre cerveau, il a un singe, un monkey. Vous ne pouvez pas faire taire le monkey, le singe. Vous devez lui donner du boulot. Il dit, alors le boulot, pour lui, c'est de surveiller la respiration. C'est tout. Ben Benoît, il dit, lisez lentement. 30-35 mots par minute. Vous mangez le texte, vous le remuez, vous faites une rumination. Il y a un élément très important aussi, et je vous conseille d'aller voir, c'est un monsieur qui s'appelle William de Reykjavik. Il a écrit un magnifique texte, Solitude and Leadership. C'est un discours qu'il a fait devant les jeunes officiers de West Point. Ils ne vont pas l'inviter une deuxième fois, à mon avis. Il a dit, tout ce que vous avez appris à West Point, c'est du management, bureaucratic management, etc., etc. Il fait plein de choses, puis il dit, ça ne vous sert à rien. Du reste, dans l'histoire militaire des États-Unis, vous n'avez eu que des ennuis par rapport à ce style de commandement. Et puis, il dit, écoutez, si vous avez un de vos soldats qui est mort et que vous écrivez à sa mère, est-ce que vous prenez un formulaire? Et il dit qu'au fond, le vrai leadership, curieusement, ce n'est pas la connexion avec les autres, c'est se parler avec soi-même dans la solitude pour créer des routines de décision. Et la solitude, dans ce sens-là, si on la retourne en positif, salutogène. Comme elle est un vrai lieu de prédisposition mentale, comme un sportif est en train de découvrir la pente dans laquelle il va devoir se lancer. Alors, il m'a bluffé parce qu'il dit quelque chose de bien. Il dit que quand on est deux, on est toujours dans la solitude. De se conférer l'amitié de l'échange. Quand on est trois, on n'est plus dans la solitude. J'ai trouvé qu'au fond, cette idée d'être à deux et de caler la conversation pour pouvoir se nourrir et pouvoir créer des routines dans son cerveau, ce serait bon. Donc, se conférer l'amitié du feedback, oser la différenciation entre les personnes. Alors moi, j'avais une fille brillantissime, 60e ATP, qui travaillait pour moi, protestante devant l'Éternel, elle me disait, avec les enfants, il faut faire égalité parfaite. J'ai dit, j'ai pas la même opinion, parce que les enfants ne sont pas les mêmes. Enfin, moi, j'ai un premier qui soigne ses affaires, puis un deuxième qui ne soigne pas ses affaires, donc il pète son ordinateur, je suis quand même obligé de lui repayer un ordinateur. Alors, le premier, il rouspète, il dit, ouais, mais pourquoi? Je dis, non, mais c'est comme ça. Et dans une vie d'entreprise, il y a des gens qui ne fonctionnent pas de la même façon. Il ne faut pas oublier de corriger sans cesse. Au fond, dans la règle de Saint-Benoît, vous avez sans arrêt cette idée de correction. Et je pense qu'on a évacué cette dimension parce que le politiquement correct, et j'ai écrit un article, quand l'excès de respect tue le respect, on laisse couler les gens sous prétexte de respect. La vérité, c'est le respect. Et de laisser quelqu'un avec un feedback faux pendant des années crée le déplacement de son benchmark. Et après, il pense qu'il fait juste, puisqu'on ne lui a rien dit. C'est très destructeur. Par certains côtés, quand je regarde le modèle, il permet dans un monastère de faire des coups d'État stratégiques. J'ai envie de dire que je pense que c'est travailler avec les directeurs d'hôpitaux, qui ont un carrousel de directeurs d'hôpitaux dans nos pays, avec les conseils d'administration, etc. Eh bien, si vous attendez de votre conseil d'administration qui vous donne la stratégie, c'est que vous pouvez vous asseoir sur un trottoir et vous pouvez pleurer. Donc il faut juste faire un coup d'État et faire des propositions stratégiques, même si ce n'est pas votre rôle, et de vous laisser caler. Donc il y a une inversion qui doit être produite. Puis il y a quelque chose que j'aimerais vite dire, c'est que j'ai travaillé avec la Caisse des Jardins, qui a pris le modèle Refaison en Suisse. Les gens de la salle qui sont... Refaison, c'est un curé qui s'est aperçu que dans un village, il y avait des gens qui avaient des sous, puis des gens qui avaient besoin de sous, et qu'il fallait faire circuler les deux choses, d'où l'idée de coopérative qui se trouve. Mais dans les valeurs de la Caisse des Jardins, il y a le pardon. Combien de fois faut-il pardonner? On demande au maître, il dit, on lui suggère 3 fois par jour, non, il dit 77 fois, 7 fois. Tout le temps. Être en registre de pardon, donc j'ai reçu un don et je le prolonge vers l'autre. Le péché, c'est refus de la prolongation du don reçu, de la création comme telle. Les derniers trucs, je l'ai travaillé avec des personnes qui sont ici dans la salle, avec la Fondation Ebenezer, c'est de passer des valeurs aux réflexes. Moi, le mot valeur, du fait de mon passé de théologien, me fout les boutons. Parce que le mot valeur, c'est des valeurs qui sont très abstraites, c'est des ballons, qui d'hélium, qui se nous soulèvent. Le respect, dans le thermomètre pour le respect, l'éthique, un tensiomètre pour ça. Et donc, comment ça atterrit concrètement? Et l'idée que j'ai eue, c'est la fameuse pyramide du Louvre, faite par Paille. Paille, il a réfléchi des heures et des heures dans la cour du Louvre, et il est monté un soir et il a dessiné 2 choses. La pyramide, une idée un peu suggérée, parce que Napoléon a fait le Louvre en fonction de tout ce qu'il avait piqué en Égypte. Puis, en même temps, cette belle pyramide, il a fait un escalier qui descend à l'intérieur du musée. Au fond, quand on y pense, la pyramide toute seule sans l'escalier, ce serait beau, mais enfin, esthétiquement. L'escalier sans la pyramide, ce serait pratique, mais enfin, c'est un trou qui descend. Mais les deux choses ensemble, c'est juste génial. Et donc, ici, on a les valeurs dans la pyramide et ici, les réflexes. Un réflexe, c'est quelque chose de très concret. Je vous donne un exemple, on a travaillé ça avec l'embarrodier d'Ariège après la fusion, ça ne marchait pas. Donc il fallait revenir à nos valeurs, ça me bassinait un petit peu de faire un programme OneLODH sur des valeurs, qui sont toujours les mêmes. Et j'ai proposé qu'on écrive des réflexes de responsabilité, de réputation, de résultat et de réseau. 4 R, comme ça, ça permettait de penser aux réflexes. Mais par exemple, il y avait un réflexe, nous venons en réunion, à l'heure, avec les bons documents, et préparés. Et on avait écrit ça sur un cube. Un jour, mon patron, Patrick Audier, il arrive, 7 minutes plus tard, il a un sac, il fouille dans le sac longuement, il trouve pas, et il se jette dans la réunion. J'ai pris le cube, j'ai lu la phrase, nous venons en réunion, à l'heure, avec les bons documents, et nous sommes préparés, mon chef. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait, Patrick ? Ben, on a reporté la réunion. La réalité bénédictine, ce n'est pas tellement des grandes valeurs posées, c'est pour réellement avoir un leadership harmonieux, correct, c'est avoir des réflexes décrits. Et moi, je vous invite à faire tout un programme qui s'appelle des valeurs aux réflexes concrets. Ça permet, au fond, d'éviter la souffrance. Parce qu'au fond, le vrai business model qu'on devrait tous avoir, c'est de passer de toxique à tonique et d'empêcher les toxines de s'installer. Éthiquement parlant, ce n'est pas juste de laisser des toxines s'installer. Et donc, la responsabilité du ressourcement perpétuel, c'est avoir une attractivité forte pour éviter que les toxines envahissent. Voilà, il y a juste une petite idée que j'aimerais vous donner pour la récollection. Il y a un moine qui se promène, un moine zen, qui se promène le soir dans les herbes. c'est fin de journée. Tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il y a un tigre qui le suit à distance. Et au dernier moment, quand il pense que le tigre va le bondir sur lui, il se jette dans un petit ravin à côté et il s'accroche à deux lianes. Et il regarde plus bas, il y a un autre tigre qui attend en bas au fond du ravin. Un tigre en haut, un tigre en bas. Et puis il regarde ces lianes et il y a une petite souris noire et une petite souris blanche qui grignotent les lianes. À ce moment-là, il prend son visage et il se retourne contre la paroi. Il y a une petite touffe d'herbe verte et au milieu, il y a une fraise des bois. Il mange la fraise. Jamais fraise a eu un si bon goût. Le tigre de derrière, c'est le passé qu'on ne maîtrise pas. Le tigre de devant, c'est la peur de l'avenir. Et puis nos lianes, c'est les liens qu'on a créés. La souris blanche et la souris noire, c'est les problèmes qui quelquefois nous rongent. Aujourd'hui, on est là pour la fraise. Merci.